une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Romain Lemoine, journaliste indépendant spécialisé en sciences économiques et sociales. Salut Robin.
Salut Emmanuel.
Dans cet épisode, tu vas nous parler de plein emploi, de workfare et de François Mitterrand.
Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler d'un outil de solidarité français très très connu, le revenu de solidarité active, le RSA. Pourquoi ? Eh bien parce que le gouvernement actuel, avec l'aide de ses députés et de la droite, est en train de bouleverser cet outil. Et ça via un projet qui s'appelle Plein Emploi, et qui a été adopté en octobre en commission mixte paritaire. Le texte final doit désormais être voté à l'Assemblée nationale pour être définitivement adopté. Mais a priori, ça devrait passer. Bon alors, que prévoit ce texte pour le RSA ? Eh bien, pour atteindre 5% de chômage d'ici à 2027, l'objectif est d'aller chercher les allocataires pour les remobiliser. Mais alors comment ? Quelle est donc cette recette magique ? Eh bien, d'abord, tous les allocataires du RSA seront inscrits au chômage pour être mieux suivis. Et puis surtout, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, le gouvernement souhaite que les allocataires arrêtent de rester chez eux sans rien faire en touchant leur allocation. Pour éviter ça, les allocataires devront signer un contrat d'engagement et réaliser au moins 15 heures d'activité par semaine s'ils veulent toucher les quelques centaines d'euros du RSA. Sinon, sanction il y aura. Alors, qu'entend-on par 15 heures d'activité ? C'est quoi ces activités ? Du côté du gouvernement, on parle d'accompagnement personnel, de stage, de coaching ou encore d'immersion en entreprise, mais en réalité, on ne sait pas vraiment. Le gouvernement a d'ailleurs refusé de dresser une liste exhaustive, notamment parce que ces activités seront gérées au niveau des départements. Et vous le verrez dans cet épisode, ça peut poser de vrais problèmes. Et puis on peut se demander, est-ce que c'est du travail, pas du travail, qui va être demandé aux allocataires ? Du côté du ministre du Travail, Olivier Dussopt, on balaye cet argument d'un revers de la main en disant « Non, jamais, ce n'est pas du travail ». Bon, d'accord, monsieur le ministre, mais on va quand même traiter cette question, si vous le voulez bien. Et puis, on peut se demander si ça marche de mettre la pression sur les allocataires. Est-ce que c'est bien de leur dire « Si vous ne faites pas ces 15 heures, bye bye votre RSA ».
Hasta la vista, baby.
Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que ça leur permet ensuite de retrouver le doux chemin du travail ? Ou alors cela va juste les faire tomber un peu plus profondément dans la pauvreté et augmenter les inégalités entre les plus démunis ? Alors, doit-on faire bosser les assistés ?
Bon, d'abord Robin, explique-nous rapidement d'où vient le RSA et comment il fonctionne.
Bien sûr ! Alors d'abord, il faut retourner dans les années 80. Après la dynamique des Trente Glorieuses, les crises de la fin du XXe siècle font naître une nouvelle forme de pauvreté dans les pays développés. Et ça, c'est notamment lié à des sociétés qui n'arrivent plus à trouver de l'emploi pour toutes et tous. Alors, en 1988, François Mitterrand, fraîchement réélu, décide d'instaurer le RMI, le Revenu Minimum d'Insertion. Dans sa lettre à tous les Français, il déclare
« L'important est qu'un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, soit garanti à ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien. » C'est la condition de leur réinsertion sociale.
Ainsi, le but du RMI n'était pas d'aider les individus en échange d'une activité, c'était de comprendre que leur assistance était une étape préliminaire à toute reprise d'une activité. Le RMI a vécu 20 ans. Et en 20 ans, le nombre de foyers allocataires est passé de 400 000 à plus d'un million. Et puis, en juin 2009, il est remplacé par le RSA. Bon, dans l'idée, le RSA ne révolutionne pas le RMI. La philosophie des deux outils est similaire. Mais le RSA élargit les personnes concernées.
Et ça fonctionne comment aujourd'hui ? Qui peut toucher le RSA ?
Tout d'abord, il faut rappeler que le RSA n'est pas touché par une personne, mais par un ménage. Les allocataires, ce sont les ménages. Quand on parle des bénéficiaires, on parle de toutes les personnes qui font partie d'un ménage allocataire du RSA. Donc, on compte ici aussi les enfants. Alors, voici les conditions pour qu'un ménage puisse avoir accès au RSA. Vous pouvez le demander si vous êtes âgé d'au moins 25 ans et que vous résidez en France de manière stable et effective. Vous pouvez toucher le RSA si vous êtes âgé de 18 à 24 ans, mais sous certaines conditions. Ensuite, pour recevoir le RSA, les ressources de votre ménage ne doivent pas dépasser un certain plafond qui dépend de la composition du ménage. Un exemple, si vous êtes en couple avec deux enfants, vous pouvez toucher du RSA si les revenus de votre ménage ne dépassent pas 1200 1276 euros. On vous met quelques ressources en description pour bien comprendre.
Mais au fait, ça concerne combien de personnes le RSA et ça coûte combien à l'État ?
Alors, aujourd'hui, c'est environ 2 millions d'allocataires et 2 200 000 si on considère toutes les personnes des ménages. Selon le service statistique des services sociaux, l'ADRES, le montant des allocations versées s'élève à 12,3 milliards d'euros, soit 0,5% du PIB français. Si on prend en compte la prime d'activité qui peut venir en complément pour les travailleuses et travailleurs au RSA, et les dépenses d'accompagnement, on est autour des 15 milliards. Dernière précision, ce sont principalement les départements qui distribuent cette prestation sociale et c'est un gros sujet local qui peut parfois être très tendu.
Mais attends Robin, on vient de parler des droits des allocataires. Du coup, on touchait le RSA sans condition jusqu'à maintenant ?
Alors non, pas tout à fait. Et c'est Yannick Lorty, professeur d'économie à l'université Gustave Eiffel et auteur de plusieurs études sur le RSA qui va vous l'expliquer.
Il faut quand même indiquer que ni le RMI ni le RSA ne correspondent à des allocations inconditionnelles. Ces allocations sont aussi, elles sont reliées à une disponibilité de la personne à occuper un emploi. C'est-à-dire, il y a toujours, dans le RMI, il y avait le I de l'insertion. Il fallait que les personnes aussi signent des contrats d'insertion. Et dans le RSA, il y a le A d'activité qui renvoie à une section bien particulière de la loi de 2008, qui est la section droits et devoirs. Et les allocataires du RSA donc bénéficient d'une allocation, bénéficient également d'un accompagnement. Ça, c'est leur droit. Mais ils ont pour devoir de s'inscrire dans une démarche d'insertion. Par exemple, s'ils sont effectivement disponibles pour occuper un emploi, il faut qu'ils s'inscrivent à Pôle emploi. Ils ont l'obligation de s'inscrire à Pôle emploi et de suivre des démarches actives d'emploi. Donc déjà, dans le RSA, hein, c'est pas un revenu universel, inconditionnel, un revenu de base. C'est une allocation qui est ciblée sur des personnes qui sont à la frontière de l'emploi souvent et qui sont encouragées à reprendre un emploi.
Il y a donc une possibilité de radiation. Cela est décidé par le président du conseil départemental. Mais est-ce que beaucoup de personnes ont été radiées du RSA depuis 2009 ?
Alors non, c'est extrêmement marginal. Les radiations, c'est quelques dizaines de cas par département. En fait, ça reste extrêmement rare en pratique. C'est vraiment des situations très très particulières de personnes qui délibérément choisissent de ne pas s'inscrire à Pôle emploi, de ne pas suivre les différentes sollicitations qui ont été faites par les personnes qui les accompagnent.
D'accord, mais ça marche tout ça pour lutter contre la pauvreté et les remettre au boulot ?
Alors, pour cela, on peut regarder un rapport de la Cour des comptes qui date de 2022. On sait que depuis 2010, 65% des bénéficiaires du RSA vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une part 4 fois plus élevé que dans la population générale. En revanche, le RSA réduit l'intensité de la pauvreté et protège contre la très grande pauvreté. Concernant l'emploi, c'est aussi compliqué. Selon la Cour, le taux de retour à l'emploi des allocataires du RSA est de 3,9% par mois en 2019 contre 8,2% pour la moyenne des demandeurs d'emploi. Autre chiffre, concernant les personnes étant entrées au RSA il y a 7 ans, seuls 34% sont en emploi, parmi lesquels 2/3 sont en emploi précaire et instable. Les raisons de ces difficultés du retour à l'emploi sont nombreuses. On va y revenir dans la suite de l'épisode qui va se concentrer sur cette réforme du RSA.
Ah bah il était temps, c'est quand même pour ça que je suis venu, hein.
Oh ça va, hein.
Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Monsieur Grognon.
Un peu de contexte ne fait pas de mal. Bon alors, cette réforme va-t-elle permettre de répondre aux manquements de cet outil ? Alors, expliquons d'abord cette réforme en détail. Les allocataires du RSA devront signer un contrat d'engagement réciproque qui inclut au moins 15 heures d'activité, et même un peu plus s'ils le souhaitent. S'ils ne le respectent pas, le conseil départemental pourrait décider d'en suspendre l'allocation. Si après coup, ils se conforment à ces obligations, ils pourraient récupérer rétroactivement les sommes perdues. Alors, tous les allocataires ne devront pas faire ces 15 heures. S'il y a de sérieux freins à l'emploi, le département pourra minorer ces heures, mais cela ne pourra pas être zéro. Sauf dans certaines conditions, pour des raisons de santé grave ou de handicap, ou pour les parents isolés sans solution de garde pour un enfant de moins de 12 ans.
C'est précis, dis donc.
Alors, sur ce point, oui. Mais pour le reste, c'est le flou complet. Et notamment, on ne sait pas vraiment ce qu'on entend par activité. Mais on va y revenir un peu plus tard. Première question par rapport à cette réforme. Est-ce qu'on peut faire 15 heures d'activité aux allocataires du RSA ? A-t-on les moyens humains, notamment au sein de France Travail, le nouveau pôle emploi, pour accompagner toutes ces personnes ? Selon les 3 chercheurs interrogés, non. Yannick Lorty.
L'accompagnement, c'est de prendre des rendez-vous avec les personnes, de faire le point de leur situation, et de les revoir régulièrement. Pendant assez longtemps, ce dispositif était fait par des travailleurs sociaux. On a de moins en moins de travailleurs sociaux, notamment dans les caisses d'allocation familiale. On a de plus en plus, disons, de personnes qui jouent un rôle de vérificateurs. Et donc, on est, même si certains départements ont fait des efforts, mais on est dépourvu, en fait, d'accompagnants de qualité qui peuvent rentrer vraiment dans la profondeur de la situation de chaque personne. C'est très complexe à mettre en œuvre et on doit le faire pour plusieurs millions de personnes. Et on doit le faire en peu de temps. Et donc, dans cette configuration, faire de la dentelle pour un très, très grand nombre d'allocataires et le faire rapidement, ça paraît une équation insoluble.
Bon, du coup, si l'État veut que ça fonctionne, il va devoir mettre la main à la poche. D'ailleurs, dans le même rapport de la Cour des comptes, dont on parlait plus tôt, celui-ci affirmait la faiblesse de l'accompagnement des allocataires. Petit nombre d'entretiens, absence de suivi, faible accès aux ateliers de remobilisation ou de formation. Donc, déjà ça, c'est un problème majeur. Si ce n'est pas réglé, cette réforme sera tout bonnement inapplicable. Ensuite, est-ce que ces 15 heures d'activité obligatoires, pour peu qu'on puisse les faire et dont on ne sait rien pour le moment,
je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien,
vont faciliter l'insertion des bénéficiaires? Bah, en fait, on ne sait pas trop si dans ce cas précis, cette loi va permettre un retour magique vers l'emploi. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les conséquences de ce type de politique qui met la pression sur les allocataires de minima sociaux sont assez claires dans la littérature scientifique. Comme l'explique Guillaume Allègre, économiste à l'Office français des conjonctures économiques, une telle politique peut avoir deux conséquences.
C'est vraiment ce que trouvent les études, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est que ça va avoir des impacts qui vont être différents selon le type de personne. C'est-à-dire que effectivement, on peut mobiliser, il peut y avoir des effets sur certaines personnes les plus proches du marché du travail, de remobilisation entre guillemets. En fait, c'est pas exactement ça qui se passe, je pense, mais qui fait que certaines personnes vont accélérer leur retour à l'emploi. Et ils vont accélérer leur retour à l'emploi et puis finalement, ils vont prendre le même emploi qu'ils auraient pris en l'absence de ces mesures, mais ils vont le prendre 2-3 mois plus tôt. Le bénéfice, il est relativement restreint. Par contre, ça va avoir un coût sur d'autres personnes en termes de non-recours.
Autant sur le retour à l'emploi, c'est difficile à analyser et les effets dépendent beaucoup des profils et puis cela peut dégrader la qualité de l'emploi. En revanche, sur le non-recours, toutes les études scientifiques sur le sujet montrent un effet important. Augmenter la conditionnalité et le risque de sanctions aggrave tous les facteurs de non-recours. Crainte de la stigmatisation, complexité des règles et des devoirs, peur du contrôle, crainte d'une sanction arbitraire, ce qui veut dire que cette loi va probablement augmenter le nombre de foyers, dont des enfants, privés de ressources financières. Et il faut dire que le non-recours au RSA est déjà bien présent, même sans cette réforme. Selon l'Adresse, en 2018, 34% des foyers éligibles au RSA n'en bénéficiaient pas. Et le non-recours, eh ben, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que ces personnes s'enferment encore davantage dans la pauvreté profonde, sans aide financière et sans accompagnement. Et comme l'ont montré les travaux d'Esther Duflo, économiste française lauréate du prix Nobel d'économie, plus on aide les individus les plus défavorisés, plus ils réussissent à s'affranchir des pièges de pauvreté. Rien ne prouve au contraire qu'en augmentant la pression sur eux, ils trouveront plus facilement un emploi de bonne qualité. D'autant, on le répète, que les allocataires ne toucheront que leur RSA en échange de ces activités, ce qui pourrait leur coûter, psychologiquement d'abord. On rappelle que les allocataires du RSA, et notamment ceux de longue durée, sont souvent des personnes fragiles, mais aussi en termes de budget, car ces activités pourraient notamment augmenter leur charge de transport.
Bon d'accord Robin, mais on pourrait te répondre, oui mais... Il y en a de l'emploi à prendre. Selon l'enquête Besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, il y a 3 millions d'intentions d'embauche qui ne sont pas pourvues.
Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
Alors oui, en effet, mais on peut signaler ici plusieurs choses. Tout d'abord, en France, on a 2,8 millions de chômeurs de catégorie A et 2 millions d'allocataires du RSA. Donc, a priori, il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Ensuite, on peut regarder si ces personnes sont qualifiées pour ces emplois. Aujourd'hui, les emplois à pourvoir sont soit qualifiés, couvreurs zingueurs qualifiés, pharmaciens, soit correspondent à des conditions de travail difficiles. Cuisiniers, serveurs, aides ménagères, manutentionnaires. L'adéquation entre ces emplois et les formations des allocataires du RSA n'est pas évidente d'argent du tout. D'autant qu'il y a aussi des problèmes géographiques. Les allocataires du RSA ne sont pas toujours dans les régions où on embauche. Et puis enfin, il faut dire que les allocataires ne sont pas tous disposés, de par leur santé, à travailler. En effet, alors que 8% de la population française de plus de 16 ans se dit en mauvaise ou très mauvaise santé, cette proportion monte à 21% pour les allocataires du RSA.
Oui, évidemment. Bon, pour la dernière partie, on va se concentrer sur ce terme, activité. Alors, c'est du travail gratuit ou pas ?
Alors, c'est difficile à dire. À ce stade, les trois chercheurs interrogés ne sont pas vraiment d'accord. Ce qui est sûr, c'est que ces activités ne vont pas être les mêmes d'un département à un autre. Et ça, ça peut poser un vrai problème en termes d'inégalité de territoire. Guillaume Allègre.
Donc, il va y avoir trois types d'inégalités qui sont liées à l'arbitraire de la loi, et arbitraire qui est créé par le fait qu'elle soit inapplicable. Donc, il y a une inégalité territoriale entre les départements et entre la couleur et les objectifs politiques du conseil départemental. Il peut y avoir une inégalité entre référents, puisque c'est les référents qui vont décider de suspensions, remobilisations, enfin des sanctions. Et il y a une inégalité entre différents types d'allocataires, selon qu'ils soient plus ou moins adverses à l'arbitraire administratif, en fait. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins adverses et qui, à cet arbitraire administratif, aux indus, au fait que, au risque de sanctions. Et donc, ça va créer des inégalités, finalement, selon cette sensibilité-là.
Donc, peut-être que certains départements vont décider de privilégier davantage les immersions en entreprise, le bénévolat, les stages, et d'autres, peut-être, les rendez-vous médicaux, les accompagnements psychologiques, etc., etc. Encore une fois, on ne sait pas vraiment. Mais pour Guillaume Allègre, on ne peut pas parler de travail gratuit.
À ce stade, je ne pense pas qu'on puisse parler de travail gratuit, en fait. Parce que, déjà, cette loi, elle est encadrée par des décisions du Conseil d'État, en fait, et des décisions constitutionnelles qui font que on peut demander des activités d'insertion sociale et professionnelle que si justement ça aide les bénéficiaires à s'insérer. Donc là, on parle ni de travail de stagiaire chez McDonald's, ni de casser des pierres au bord de la route ou de construire des routes nationales.
Maud Simonet est sociologue et chercheuse au CNRS à l'IDES Nanterre. Elle a de sérieux doutes, notamment car cette rhétorique de dire « non, ce n'est pas du travail, non, ce n'est pas du travail », on l'a déjà entendue en France.
Je suis très sensible à ça parce que, comme je travaille sur le travail invisible, le travail dénié comme tel, généralement, quand on répète beaucoup que ce n'est pas du travail, c'est qu'il y a quand même un enjeu derrière. Hein. Voilà, moi, j'ai pas de boule de cristal et je peux pas dire ce que ça sera demain. Complètement autre chose, vous allez me dire. Le déploiement du service civique dans les services publics. Donc, le service civique, ça n'est pas du travail. Là aussi, puis là aussi, on a la même rhétorique. Tout le monde dans le monde associatif et dans l'État dit, mais c'est pas du travail, c'est pas du travail, c'est de l'engagement. C'est de l'engagement des jeunes, c'est pas du travail. Donc, le service civique, ça n'est donc pas du travail en théorie. En tout cas, ça n'est pas reconnu comme du travail. On est en dehors du droit du travail. On est dans un statut d'engagement pour les jeunes avec une indemnité qui n'est pas un salaire, avec des règles qui ne relèvent pas du droit du travail, etc. Créé par et pour le monde associatif, ce statut s'est vu diffusé à large échelle dans les services publics à partir de 2015 parce que le gouvernement avait décidé qu'il fallait l'universaliser et qu'il fallait donc que ça ne concerne plus simplement le monde associatif, mais tous les services publics pour que tous les jeunes puissent un jour faire un service civique s'ils en ont envie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce déploiement du service civique dans les services publics ? Eh ben, c'est que très vite, on l'a vu, les services civiques se sont retrouvés à combler tous les manques qu'on pouvait trouver dans les services publics. Hein.
Sans être sûr, mais simplement pour alerter, Maud Simonet s'inquiète de la création d'un véritable workfare autour du RSA.
Petite définition du workfare, s'il te plaît, Robin.
Alors oui, et c'est la sociologue qui va vous la donner.
L'idée, c'est de mettre au travail les bénéficiaires de l'aide sociale. Le néologisme workfare, on dit que le premier à l'avoir utilisé, c'est Nixon dans les années 70. Avec cette idée que bon bah il va falloir quand même activer un peu tous ces gens qui touchent l'aide sociale et qui font pas grand chose. Donc c'est ça le discours. Ça va revenir de très très fortement en fait dans la bouche et dans la rhétorique et la politique, l'idéologie de Reagan. Hein. C'est vraiment Ronald Reagan qui va être le président en fait, qui va faire toute une campagne dans les années 70-80 autour de cette nécessité d'arrêter, de demander une contrepartie voilà, à l'aide sociale. avec tout un discours qui va s'ancrer d'emblée dans une rhétorique à la fois sexiste et raciste.
Le workfare va alors se développer un peu partout dans le monde. Au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Inde et dans une certaine mesure en France, avec notamment les politiques d'activation. Selon elle, le workfare a deux intérêts principaux. Fournir de la main-d'œuvre gratuite, voire quasi gratuite, et notamment aux services publics. Par exemple, à New York, dans les années 80, plus de 6000 allocataires d'aide sociale devaient, pour garder leurs aides, travailler 20 à 40 heures par semaine en nettoyant les rues, les parcs ou les stations de métro. Deuxième objectif, selon la sociologue, réguler le marché du travail. C'est notamment ce qu'écrivait le géographe britannique Jamie Pegg dans Workfare States en 2001. Je cite, « Le workfare ne consiste pas à créer des emplois pour ceux qui n'en ont pas, mais à créer des travailleurs pour des emplois dont personne ne veut. » Vous aurez compris. Pour plus d'infos sur le workfare, on vous laisse lire les brillants travaux de Maud Simonet, disponibles en description.
Y a-t-il un risque aujourd'hui que le RSA se rapproche d'une logique comme celle-ci ?
On ne peut pas le nier, oui, le risque existe. D'autant que ces activités seront mises en place par les départements indépendamment les uns des autres. Mais rien n'est sûr. Pour conclure, on peut dire que l'efficacité de cette réforme reste largement approuvée, notamment pour aider les plus démunis. Cette réforme pourrait même les rendre encore plus pauvres et augmenter les inégalités entre les pauvres, entre ceux qui peuvent accepter ces activités et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas. Selon les chercheurs et chercheuses, le principal problème est que cette réforme avance dans le flou, sans prise en compte d'études scientifiques, sans données précises sur cette réforme et sans précision sur les types d'activités qui seront proposées aux allocataires. Pour eux, cette réforme est surtout idéologique et politique. Les assistés ne se bougent pas, il faut les bouger et leur mettre la pression pour les remobiliser. Pourtant, selon les trois chercheurs et chercheuses, des solutions existent, notamment pour mieux accompagner les allocataires avec davantage de travailleurs sociaux, en donnant vraiment les moyens pour accompagner les bénéficiaires dans leur vie personnelle et professionnelle. En tout cas, les effets de cette réforme seront intéressants à analyser. Et les trois chercheurs et chercheuses m'ont prévenu. Ils suivront ça de près.
Merci Robin pour cet épisode qui montre que la réforme du RSA n'est, disons, pas uniquement guidée par un souci d'efficacité. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Robin Lemoine, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe, Nora Issem. Directrice des productions, Marion Gourdon. Chargée de production, Mathilde Jonin, avec l'aide de Lila Bordelais.